Ce cours dédié à l'élévation de l'âme, le Neshama, de Karen Ruth Lane. Alors, la question s'est posée, comment doit-on réagir lorsque quelqu'un, littéralement, nous tombe dessus ? Pas physiquement du toit, mais nous traite de tous les noms. Une histoire dans la Torah, du roi David. Le roi David donc a envoyé, avant d'envoyer, il a vu, comme ça, je prends l'histoire depuis le début, comme ça, c'est marqué dans l'Amida, on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Yaakov. David était un très grand homme. Il a demandé à Dieu, pourquoi est-ce que c'est pas marqué Eloke David, le Dieu de David? Il a répondu, Abraham et Jacob, je les ai éprouvés. On voit des épreuves. Ils ont tenu le coup. Toi, je ne t'ai pas éprouvé. Bon, David a dit, éprouve-moi. Dieu a dit, tu ne tiendras pas le coup. David dit, tente le coup, on verra bien. Moi, je dis que je tiendrai. Dieu a dit, tu ne tiendras pas. Et pour te faciliter, je te dis, quand je t'éprouve et sur quoi je t'éprouve ? Je t'éprouve aujourd'hui avec une femme, mariée. Ça va. On te dit exactement aujourd'hui, fais attention. Donc, tu t'enfermes dans les toilettes, tu jettes la clé par la fenêtre, tu tiens jusqu'à ce soir. Bon, il se retourne, tac ! Il voit la voisine sur le toit en train de se doucher, Bathsheba, Miss Jérusalem de l'époque. Bon, ça c'est pas marqué, c'est moi qui rajoute en plus. La femme d'un de ses généraux, Uriah Hitti. Auparavant, est-ce que je peux en parler ici ou pas ?
Non, il a faudé.
Attends. Auparavant. Bon, ça peut être utile. Lui s'est dit, comme tout homme, je peux avoir un Yetzerara, d'accord ? Je vais l'assouvir. Comme ça, j'aurai plus faim. Et même un très bon plat, quand tu es rassasié, ben, ça passe plus. Il avait bien une ara, peu de femmes. C'est marqué que le roi ne peut pas se marier avec beaucoup de femmes. Que 18, maximum.
Que
un roi, c'est marqué dans le Torah, un roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, que 18.
C'est déjà bien pour un
roi. Hein ?
C'est déjà bien pour un roi.
Voilà. Bon, messieurs, on revient sur le sujet. Eh bien, je vais assouvir toutes mes pulsions que j'ai dans ce sens-là avec mes femmes. Il s'est assouvi. Chazal disent, il a oublié une loi importante. C'est pour ça que j'hésitais à vous le raconter, mais je pense que ça peut être important pour certaines personnes qui nous écoutent. On a une loi qui dit, il y a un petit organe chez l'homme. Celui qui le rassasie, il la femme. Celui qui la femme, le rassasie. Contrairement à quand tu manges, plus tu manges, moins tu as faim. Au niveau sexuel, plus tu manges, plus tu as faim. C'est un truc connu de la vie. Des gens qui disent des fois, bon, moi, j'en peux plus. Je fais une fois une avéra, comme ça, je calme un peu. Exactement le contraire. Plus tu rentres là-dedans, plus tu es affamé. C'est vraiment comme ça. Grave erreur. Donc, il se retrouve en situation où il s'est rassasié, mais au contraire, maintenant, il est encore plus affamé. Il invite la demoiselle, la dame, à boire un thé chez lui. Et il lui fait la cour. Et elle tombe dans le panneau. Et elle tombe enceinte.
Un jour.
Ben, il ne faut pas un jour pour tomber enceinte. En deux minutes, elle tombe enceinte.
Il ne s'est pas marié ?
Non. Maintenant, elle est mariée. Alors, le Talmud dit, tous ceux qui disent que le roi David a péché ne peut que se tromper. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les généraux, tous les soldats du roi David qui partaient en guerre, donnaient un guet, un acte de divorce à leur femme, pour en cas où ils se sont portés disparus. D'après la halakha, On n'a pas eu témoignage que le mari a disparu, la femme ne peut pas se remarier. Ce sont les cas les plus durs de la halakha. On essaie de trouver tous les moyens pour autoriser une femme dont le mari a disparu. Pendant la Shoah, il y a des grands tzadikim qui partaient dans les camps, tout ça, enfin, ils notaient. Ils notaient les noms en cas où il s'avère que la femme est vivante, elle pourra se remarier. J'ai vu le corps mort. Donc, pour parler de ce problème un peu épineux de la halakha, tous les mariés, avant de partir, donnaient un guet, un acte de divorce à leur femme. Comme ça, en cas où ils sont portés disparus, grâce à Shalom, la femme est libre, elle peut se remarier. Donc, elle n'est pas mariée. Donc, elle est une femme libre. Donc, du point de vue de la halakha stricte, ça va, ça passe. Ok, il apprend qu'elle est enceinte. Le mari n'est pas rentré du front depuis quelques semaines. Il saura qu'il y a eu problème. Donc il envoie une lettre à l'armée, envoyer Uriah Hiti qui revienne pour un congé, qui revienne en congé, il a une permission. Comme ça, il ira avec sa femme et tout le monde dira que c'est de cela qu'elle est tombée enceinte. Donc il appelle le général Uriah Hiti qui revient, qui rentre par la maison. Il dit directement au palais, vous m'avez demandé, oui, t'as une permission. Permission, mes copains sont au casse-pieds en train de se battre, moi je vais aller maintenant chez moi à la maison, pas question. Je dors au palais, le lendemain matin, je repars directement au front. Comme ça il dit, et comme ça il fait.
Il dort au palais.
Non, il n'a pas dormi, il est au palais. Sa femme habitait en face, il dit, je ne rentre pas à la maison, allez trouver deux témoins, Kiddushin, bonjour mon chéri, comment vas-tu, machin, j'ai pas le temps, mes copains ils sont à l'armée. Je dors ici dans les escaliers au palais. Le lendemain matin, à la première heure, je pars.
Hein ? Ça servait à quoi qu'il y ait ça ?
Le général, il ne voulait pas rentrer chez lui à la maison. Par solidarité avec ses copains. Ses copains sont à l'armée en train de se battre la guerre. Tu t'es ensemble avec ta femme. C'est peut-être pas le moment. On m'attend. Je suis en plein combat. Le roi m'a appelé. C'est une chose tellement importante. Il me dit, va, t'as une permission. Non, je ne comprends pas. Je résiste au palais et je rentre à la maison et je rentre au front le lendemain matin. En cela... Alors, la suite. Le roi David, voyant qu'il n'a pas le choix, envoie une lettre au chef de l'armée, Yoav, lui dit « Uriah est passible de mort, fais en sorte qu'il soit tué par l'ennemi. » Ok, Yoav part avec son équipe, il se rapproche de la muraille de l'ennemi, et il fait un signe à tous les copains, tout le monde part, et il laisse Uriah tout seul. Et il s'est tué. Par l'ennemi, sous les ordres du roi David. Ok, alors admettons que le roi David n'a pas péché avec cette femme parce qu'elle avait reçu le guet de son mari, mais envoyer quelqu'un à la mort, c'est pas joli joli. Dit la Gemara, là aussi il n'a pas péché. Parce que d'après la Torah, un homme qui désobéit à un roi d'ordre divin tel que l'était le roi David, était loin par un prophète, il est passible de mort. Donc quand il a désobéi au roi en restant au palais, ne pas aller chez lui à la maison, il est devenu redevable, passible de mort. Bon, alors, ça reste, comme vous dites, ça reste, c'est au niveau strict de la loi, c'est clean. Mais, ok, je parle de la loi grave, mais...
Une permission, ça ne veut pas forcément dire qu'il doit aller avec sa femme.
Bon, il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va boire un thé.
Surtout qu'il n'a pas eu un pendant longtemps.
Voilà. Donc, tout le monde comprend que bien que du point de vue de la loi stricte, c'est... peut-être bien. En bon français, ça la fout mal, quoi. C'est pas... Ça, c'est pas. Nathan, le prophète, vient voir le roi David et lui dit, il y a un cas terrible. Il y a deux personnes qui habitent l'une à côté de l'autre, un super riche et l'autre super pauvre. Le riche, il a des troupeaux, des centaines de têtes de bovins. Le pauvre, il n'a rien qu'une chèvre. Une chèvre avec laquelle il vit, avec il boit de son lait, et il se chauffe avec elle la nuit quand il a froid. C'est une... il vit avec elle. Le riche a reçu des invités. Et ça lui a fait mal de prendre une de ses têtes de bovins. Il a piqué la chèvre du pauvre, l'a égorgé et a fait un méchoui pour ses invités. Le roi David dit, je porte serment qu'il est passible de mort. Quoi, t'as des bovins comme ça, tu prends celle du pauvre qui n'a rien. Nathan Abil lui dit, c'est toi. Tu as des femmes, tu as 6 femmes, et kahena, et kahena. Et comme ça, et comme ça. De là, on apprend qu'il y avait 18. 6, et de nouveau 6, et de nouveau 6. 18 en tout. Et tu vas prendre la femme de ton prochain. Le roi David dit, sur place, il dit, khatati, le péché. Le Gonovilna, il dit que dans la Mengina, les Teramim, la mélodie, il voulait commencer, il a voulu faire un vidou tout de suite. Ratati, j'ai péché, j'ai fait l'adultère, je regrette, etc. Mais il a été. Parce que il y a une sorte de. Mengina fait que ça s'arrête. Ça s'arrête subitement. Pourquoi? Il a été pris de sanglots. Il ne pouvait plus, même plus parler tellement il a regretté ce qu'il a fait.
Il n'aurait pas pu attendre un jour.
C'était l'épreuve, c'était l'épreuve. Le premier homme, il a attendu. Le premier homme, il va attendre jusqu'à Shabbat.
D'accord, mais nous, on aurait pu attendre.
Ok, toi, tu as des épreuves qui sont adaptées à toi. Le roi David a voulu une épreuve qui soit adaptée au patriarche. Lui, lui a dit, c'est trop dur pour toi. Je veux quand même.
C'est une épreuve patriarche, ça, de ne pas frotter.
Il sait que c'est une épreuve.
Moi, je n'ai pas éloqué Youssef, pourtant ça, il l'a remporté au lendemain.
Hein?
Moi, j'ai pas éloqué Youssef, pourtant ça, il l'a remporté au lendemain. C'est-à-dire, je vois pas en quoi. Déjà, premièrement, en quoi c'est vraiment une épreuve si dure que ça pour un homme qui a 18 femmes de ne pas faire Ishatish. Et Ishatish, il est confronté à ça toute sa vie.
Lui, par rapport à sa source d'âme, le roi David, c'est un peu compliqué. Le roi David a pris la place de Esav à Racha. Avraham, il est le côté de la bienfaisance. Yitzhak, c'est le din. Yitzhak a eu deux enfants, Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, les deux sont nés dans ce qu'on appelle Tiferet. Tiferet, c'est une union un peu entre le Chesed et le Din. Tiferet, c'est le bon centre. Attends, dans Tiferet, tu as plus Chesed, plus Din. Yaakov, c'est plus Chesed, du côté d'Abraham. Et Esav, c'est plus Din, du côté de Yitzhak, parce que Yitzhak, il aimait beaucoup Esav. Le Din, la rigueur, c'est que tu es en confrontation avec le mal, toujours. Et Esav, s'il avait tenu dans ses confrontations avec le mal, il serait beaucoup plus haut que Yaakov. Parce que quand tu es en confrontation, tu montes beaucoup plus que lorsque tu n'as pas de confrontation. Mais il a flanché, il est tombé dans le mal. Par la confrontation, il était en danger, il est tombé. Il sera préféré à Esav, se disant que lui, maintenant, s'il tient bon, il sera comme moi, quelqu'un qui résiste au mal. Qui a pris sa place? Un qui était roux, comme Esav, le roi David, qui était sanguinaire aussi, mais dans la Kdoucha, il lui a fait les guerres d'Hachem. Esav était sanguinaire, mais dans le mal. Et Esav, c'est un homme qui faisait l'adultère. C'est un homme qui confrontait au mal, confronté aux femmes, qui l'attirent, etc. Donc David, il avait une épreuve dans ce domaine-là. Attends, les Avot, Avraham, il y avait chacun dans son domaine. Avraham, qui était chesed, devait égorger son fils. C'était tout le contraire. Chesed, c'est aimer tout le monde. Comment on peut égorger son fils? Etc. Donc David avait une épreuve qui correspondait à son âme, mais qui était trop haute pour lui. Il a voulu quand même la franchir, et il n'a pas franchi. Et il est tombé. Il regrette. Et Nathan lui dit, Hachem, accepte ton regret. Tu ne mourras pas, toi. Mais tu auras une épreuve dans ta famille. Dans ta famille. Quelques années plus tard, il avait un fils, son fils aîné, Avshalom qui s'appelait, qui était l'aîné, qui était censé être le roi, très beau. Et je vais vous faire un cours sur un sujet, mais je suis parti sur un autre sujet complètement, c'était. On continuera la prochaine fois. Il avait une sœur très, très, très belle, qui s'appelait Tamar. Et il y avait un demi-frère de Tamar, qui s'appelait Amnon, donc qui était du même père David, mais d'une autre femme du roi David. Et Amnon, il voit sa demi-sœur Tamar, c'était une bombe, et il est tombé malade, il s'est mis dans la tête que celle-là, je ne peux pas vivre sans elle, il me la faut. Une ordure, un copain à lui a dit, écoute, tu sais quoi, c'est pas compliqué, fais comme si tu es malade et demande à ton père venir te visiter. Dis-lui, j'aimerais bien que ma sœur Tamar vienne s'occupe de moi, me fasse un truc à manger, une crêpe comme ça. Et puis, quand tu seras seul avec elle, tu sautes dessus. Amnon fait comme ça. David vient le visiter. Ouais, je suis malade, tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Oui, dis, je veux bien que ma soeur, ta mère, tu peux demander qu'elle vienne. Si tu passes à Noël, ils ne se voyaient jamais. C'était les garçons, les filles, pas de même mère. Bon. Vient Tamar, elle lui fait les crêpes, et Amnon dit, sortez tous, je veux qu'elle me donne ça tout seul. Ouais, les gens sortaient, comprend très bien, très, très naïf comme ça, il ferme la porte, et il tente de la violer. Elle lui dit, mais pourquoi? Dis au roi qu'ils ont autorisé à se marier, on se marie ensemble. Pourquoi tu fais ça comme ça? Ah, tu vas me rendre maintenant impur, à l'époque, ne pas être vierge, c'était terminé. Hein?
Super honnête.
Elle lui dit, on vivra ensemble pour eux. Et lui ne l'écoute pas, et il la viole. Le texte dit, immédiatement après, il l'a haï comme il l'a aimé. C'est transformé en haine terrible. Il la fout dehors, il dit, maintenant tu me fais ça. Après que tu m'as fait, tu me fous dehors, prends-moi pour femme. Et il la fout dehors, il ne veut même pas la voir. Elle rentre à la maison, grand deuil dans la maison. Le roi l'avait mis au courant. Évidemment, Absalom, le frère de Tamar, est mis au courant. Chazal, et ce jour-là, ont édité un interdit qu'on n'a pas le droit d'être en Yéhoud avec une femme non mariée. Auparavant, ce n'est qu'avec les femmes mariées qui est interdit d'être en Yéhoud, en isolé. Maintenant, aussi, depuis ce moment, de ces histoires-là, il est interdit aussi d'être avec une femme non mariée en situation d'isolement. Quelques années passent. Et Absalom organise une tonte de son bétail. À l'époque, c'est une grande fête pour cela. Et il invite aussi Amnon, l'homme qui a violé sa sœur. Amnon vient. Et Absalom met tous ses copains au courant. Au moment précis, tac, on le tue. Comme ça, ils ont dit, et comme ça, ils ont fait. Ils ont tué Amnon en vengeance d'avoir violé la sœur de Absalom. Absalom, après voir cela, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur de la réaction du père, du roi David, qui va comment tu mon fils. Il s'enfuit, il part à Redekchour, à l'étranger. Plusieurs années. Le roi David, il est misken. Sa fille était violée, son fils est mort, l'autre fils il est parti maintenant en galoute. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il prend un deuil sur lui, comme ça, et il continue son dur travail de roi d'Israël. Son général, Yoav ben Tsruya, il voit que le roi est triste de cela, mais qu'il n'a pas, pas la capacité de dire à son fils de revenir. Il loue les services d'une femme très très intelligente, très picrite, très intelligente, très fine, qui habitait un endroit qui s'appelait Tekoa. Il l'appelait la Tekoïte, comme ça on l'appelle, la Tekoïte. Et il lui dit, tu vas chez le roi, tu diras comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Alors la Tekoïte arrive chez le roi, elle vient déguisée, comme quoi elle est, comme si elle est en deuil. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon mari est décédé, et mes deux enfants ont commencé à se bagarrer. L'un s'est levé, il a tué l'autre. J'ai plus qu'un enfant. Dans toute la famille, mon frère, les oncles, les cousins, tout le monde me dit, l'enfant assassin, il faut maintenant l'amener le faire juger, qu'il soit tué. Il est tué, il doit être tué. Alors, mon mari est décédé, a été assassiné, maintenant on veut que je donne mon dernier fils qui se fasse tuer aussi. Sa majesté, faites quelque chose. Alors le roi lui assure que, rentre à la maison, je m'occupe, t'en fais pas, tout ira bien. La femme dit, est-ce que sa majesté me permet de rajouter encore un mot? Oui. Pourquoi envers moi tu as pitié de mon fils et à propos de ton propre fils tu n'as pas pitié, tu le laisses en exil? Le roi il comprend tout ce qu'il dit. Il dit, moi c'est pas Yoav mon général qui t'a dit de venir me voir? Il dit, absolument. Mais comme tu as jugé maintenant d'une façon équitable, juge aussi pour ton fils équitablement et ramène-le. C'est bon, j'ai entendu, j'ai compris. Il envoie des messagers, aller prendre son fils Absalom, qui revient d'exil. Mais c'est le roi, on ne va pas comme ça chez le roi. Il faut recevoir une invitation, venir chez le roi. Absalom rentre au palais, ne reçoit pas d'invitation de venir voir le roi. Et comme ça, ça reste des années. Le roi n'a pas voulu le voir. Simplement, il a reçu au palais.
Il est mort.
Mort de quoi?
Il a tué son frère, il a tué quelqu'un, il a sorti. Il a
fait un meurtre. Ouais, c'est pas lui qui a tué. Il a donné l'ordre aux gens de tuer. Bonne question. Mais il a donné à son. Et aussi, il nous voit que s'il y a plusieurs qui tuent à la fois, alors tout le monde. Il n'y a personne qu'on peut tuer vraiment. Voilà. Bon. Avshalom. Beau. Fils aîné du roi. Orgueilleux. Sait que le roi veut donner la royauté à son petit frère Shlomo. Le roi est déjà vieux. Il se met à la porte du palais. Et quand les gens viennent se faire juger, il dit, mon roi, mon père est un peu occupé maintenant, dis-moi de quoi il s'agit et je vais te dire quelle est la loi. Il commence à juger les gens à la place du roi. Et peu à peu, il se fait comme ça des fans. Il devient un leader. Et il va un peu loin de Jérusalem, fait un grand festin et annonce qu'il devient le roi d'Israël. Il a pris des gens du royaume, des gens de la cour, il s'est fait une sorte de mafia comme ça, et tous commencent à boire du vin, à manger, et dire « Vive le roi Avshalom !» Et il décide de venir avec toute son équipe sur Jérusalem faire un putsch militaire. Le roi apprend ça, il sait qu'il va risquer sa vie, et il fuit le palais. Il fuit le palais, en pleurant avec ses femmes, pas toutes, il a laissé des femmes au palais, mais il prend sa famille, les serviteurs, et commence à monter à pied Jérusalem vers le mont des Oliviers. Il monte à pied. Il arrive en haut au mont des Oliviers, contre le chef du Sanhédrin. Le chef du Sanhédrin. Il s'appelait Shimi ben Gera. Shimi ben Gera. Son descendant, c'est Mordechai. Ben Yair, ben Kish, ben Shimei. D'accord, c'est un descendant de Shimon ben Gera.
Ça, c'est une épreuve que Dieu avait prévenu, quoi.
Attends. Exactement. Et Shimon ben Gera était un fervent du roi Shaoul. Il considérait que le roi David a usurpé de la royauté du roi Shaoul. Et le chef du Sanhédrin se met à insulter David. Et il lance du sable, de la terre, des pierres, devant la cour, devant tout le monde. Klala Nimretzet. Le roi David dira après, il m'insultait d'une Klala Nimretzet. Rassemblée Nimretzet, c'est racheter votes. Noef, t'as fait l'adultère. Mored, tu t'es révolté contre ton roi, le roi Shaoul. Nimretzet, Rotser, t'es un assassin. Tsorer, t'es un persécuteur. Toeva, t'es une horreur. Le Shimon ben Gera, le chef du Sanhedrin, sur le roi David. Yoav, général de David, est avec lui. Il sort son épée et lui dit « Je vais tuer ce chien. » Le roi David lui dit « Arrête. » Dieu lui a dit « Insulte. » Hachem a mal au kalel. Dieu lui a dit « Insulte. » Et il continue la route. David s'enfuit au Jourdain. Je continue l'histoire.
Ah oui,
c'est génial, hein. Bon, c'est compliqué, je ne vais pas rentrer parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes. Vous lirez dans la Bible, alors, c'est passionnant, ça se lit la Bible, c'est passionnant. Je ne racontais que la Bible, je ne racontais pas un commentaire, vous lisez là la Bible, c'est passionnant. Shmuel, passionnant. Il s'enfuit, il va au Jourdain. Il a envoyé un de ses amis, Hushai Arki, voir Avshalom, qui se passait pour un ami de Avshalom. Et Avshalom lui dit quoi, t'es pas un ami de mon père? Oui, ben moi j'en ai marre, je préfère être avec les jeunes qu'avec les vieux. Et il y a un débat entre Doeg, non, comment il s'appelait? Pas Doeg Edomi, Achitophel. Achitophel, qui était le conseiller de Avshalom, et Hushai Arki, qui est aussi conseiller, mais lui c'est un espion, c'est un envoyé du roi David. Il travaille pour David. Achitophel, il dit, poursuis maintenant ton père, n'attends pas une seconde. Tu le tues, sinon il reviendra en force et tu es mort. Hushai Arki dit non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'Achitophel est un homme très intelligent, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je connais bien ton père. Maintenant, il est comme un ours blessé, il est dangereux. Tu vas aller, il peut lui te tuer. Attends, réunis tout un Israël, tu as une armée entière, et après tu vas et tu le frappes. Avshalom écoute les deux, il dit, je pense que Hushai a raison, Hushai Arki. Achitophel a compris qu'il s'est fait avoir. Il rentre de la maison, il écrit son testament et se pend. Il a compris que c'était fichu. Il avait raison, c'était fichu. Le roi David va de l'autre côté du Jourdain, réussit à réunir une partie de son armée aussi.
Non, mais j'ai toujours l'impression qu'il n'y a rien. Enfin, la façon dont c'est raconté, c'est pas du tout juif. J'ai l'impression de regarder un film.
Ouais, c'est pire que de nos jours.
Pour les femmes.
C'est tout des névis, mais où la Torah, mais
sur ça. Il se pend, on n'a pas le droit de se suicider dans la Torah aussi, on nous dit.
On a le droit de conseiller le fils du roi de faire un putsch. Mais de quoi on parle maintenant? De quoi on parle? Mais qui est Abshalom? C'est pas un gadol d'Israël, c'est un rachat.
C'est son nom dans la Torah. Non, pas Abshalom, c'est là.
Alors qui?
L'autre,
Achitophel. C'est un des rachats. Je crois que c'est un rachat, super rachat. Je
l'aime
bien. Aussi?
Il parle mal à David, hein.
Je sais pas, David, il s'entourait lui-même de Rishaï.
Mais mon cher ami, quand tu es dans le domaine du pouvoir, tu es très souvent entouré de gens qui sont des gens malhonnêtes, qui veulent du pouvoir aussi, bien sûr. Même Yoav, qui est son ami, pour finir, lui, lorsque le roi David va nommer un autre chef de l'armée, il y aura deux chefs d'armée. Qu'est-ce qu'il fait Yoav? Il vient, je vais te parler. Il attrape par les cheveux et lui enfonce le sabre dans le... Comment il a fait plus? Parce que quelqu'un a peur quand le sabre, quand on met la main pour le sabre. Alors, il s'est baissé comme s'il voulait faire son lacet. Et il a attrapé comme ça et tac. Alors, pouvoir, mon cher ami, ça rend fou le pouvoir. Fou. Bon, il nous reste une minute. Bon, pour finir, Absalom part, il y a une guerre entre les partisans d'Absalom et les partisans du roi David. Et Absalom avait une très belle chevelure longue, comme ça, comme les Beatles. Et il va à cheval, et sa chevelure s'attache à une branche d'arbre. Le cheval continue, il est suspendu comme ça. Un des soldats du roi David vient et le tue. Et comme ça, le putsch militaire est terminé. Le roi David réintègre le palais. Absalom, pour dire à quel point tu me dis c'est des tzadikim. Absalom, qu'est-ce qu'il a fait pour bien montrer qu'il était le roi? Sous les conseils d'Achitophel, il a pris les femmes du roi David qui restaient au palais, sur le toit, pour que tout le peuple voit. Il a couché avec chacune des femmes du roi David.
Alors,
ils sont
de Horaïta,
hein? Bien sûr, ils sont de Horaïta. Mais c'est Absalom, tu me dis quoi? C'est un...
Et le petit frère?
Petit frère, c'est le petit frère, justement, tzadik. Ouais. C'est un tzadik.
Lui, il est parti avec David.
Oui, il est parti, il s'est enfui, bien sûr.
Et c'est lui qui est devenu roi après?
Oui.
Ah, c'est le Shlomo.
C'est pas, il y a eu encore d'autres histoires. Un autre aussi qui a voulu après prendre Adonia, Adonia Hagi, puis aussi un autre frère qui a voulu prendre la royauté à la place. Bah, c'est pas facile, hein. En deux mots, tout ça pour raconter que lorsque quelqu'un vient nous faire du mal, la réaction de David, c'est notre enseignement. Hachem Amarlo Kalel, Dieu lui a dit insulte. Est-ce que, pour cette raison, Shimon ben Guerra est déresponsabilisé, déculpabilisé de ce qu'il a fait, d'avoir insulté le roi David? En aucun cas. On verra la suite au prochain numéro de Mabinader. Baruch Adonai.